Monique est en studio parce que, j'allais dire, il fallait presque s'y attendre. Suite à l'incendie à Longueuil qui a fait 3 victimes, puis il y a des dizaines de personnes qui ont perdu leur logement, il y a un mouvement de solidarité qui s'est amorcé. Les gens ont voulu se montrer généreux. Et comme souvent ça arrive dans ces circonstances, il y a des arnaqueurs qui en profitent.
J'arrive pas à m'y faire qu'on voit autant le meilleur de l'être humain que le pire dans ce type de situation-là. Et on a un bel exemple encore ce matin. Et c'est la police de Longueuil qui est très, très inquiète, qui souhaite aviser les citoyens parce que les gens ont été excessivement généreux en lien avec l'incendie de la rue Toulouse qui a fait 3 victimes, on le sait, 11 blessés, et qui a laissé orphelin le petit Joël. C'est une histoire qui a touché beaucoup, beaucoup de gens droit au cœur et ça a motivé ce beaucoup de dons de vêtements, mais de dons en argent également. Et là, il y a quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur la page Spotted Longueuil, entre autres, qui amasse de l'argent pour les sinistrés. Et il se présente comme étant lui-même un sinistré, dit habiter à l'appartement 8 du 240 Toulouse, et donc qu'il connaît tous ses voisins et qu'il pourra remettre lui-même l'argent à ses voisins, à ses concitoyens qui ont tout perdu. Et là, on a vérifié du côté des policiers, là, c'est pas vrai du tout, cet individu-là n'a jamais habité cet immeuble-là. On le traque, mais là, ce qu'il fait, c'est qu'il retire ses publications et il en part d'autres un peu partout. Combien de personnes se sont fait prendre jusqu'à présent? Parce qu'on sait qu'ils sont par centaines là, à faire des dons présentement. C'est la raison pour laquelle on fait une mise en garde ce matin et on invite surtout les citoyens qui veulent continuer de donner, de le faire, entre autres, via la Croix-Rouge. L'organisme, on est sûr que ça va aller au bon endroit et d'être très, très vigilant quand des gens comme ça disent être eux-mêmes sinistrés et vouloir amasser des sous.
Moi, j'ai un vieux principe, là, je ne donne pas à des individus. Dans des cas comme ça, là, pour, à moins de connaître la personne, pis, parce que c'est sûr que tu as toujours quelqu'un qui... On parlait à micro fermé pendant le verglas, là, j'en ai-tu vu des arnaques, là, des photos de congélateurs, puis des faux, des baux là, qui étaient faux, des gens qui vendaient des moitiés-moitiés pour venir en aide aux sinistrés du verglas 2 jours après que ça ait commencé. Il y a du monde qui pense à ça vite, là. Comment puis-je fourrer le système?
Qui pense tout le temps.
Ils sont toujours en mode. Puis, tu sais, comment j'arrive à déjouer ça? Alors, on rappelle un peu son stratagème. Il se fait passer pour une des victimes, un des rescapés et qui veut ramasser l'argent pour aider ses voisins.
Voilà. Alors, on met les gens en garde ce matin. Donnez pas à cet individu-là.
Comme dirait Claude, 10-4. Merci, oui. Monique. Un an après la tuerie de Parkland, ben, on a vu évidemment des cérémonies et on comprend que le débat sur les armes à feu aux États-Unis n'a pas bien évolué durant cette période-là.
Il n'a pas bien évolué et il y a une sorte de... Il y a un symbole dans Parkland. Cette école secondaire-là, il y a un an, Saint-Valentin, 17 morts, c'est la fusillade la plus meurtrière dans une école secondaire. Et là où tu as un symbole, c'est, écoute, il y a eu une sorte de prise en charge des victimes qui ont lancé un mouvement. Ils ont fait une grande marche qui a généré, je pense, quelque chose comme 1 million de personnes qui ont protesté. Très, très actifs sur les médias sociaux. On les a vus, des grands communicateurs. Mais ce que ça a fait aussi, comme plusieurs autres tueries symboliques, par exemple Sandy Hook, c'est que les gens qui craignaient que cette prise en charge-là mène à des lois plus restrictives sur l'accès aux armes à feu, se sont précipités pour en acheter. Après Sandy Hook, c'est 3 millions d'Américains, en fait, 3 millions d'armes qui ont été achetées, qui n'auraient pas été achetées. Et après Parkland, c'est 600 000 armes qui ont été achetées, qui n'auraient pas été achetées, puisque les gens craignent que l'accès à certains types de chargeurs, l'accès à certains types d'armes soit restreint. Donc, tu as une grande prise de conscience qui est générée par ces gens-là, mais t'as une sorte de rush vers les armureries pour acheter des guns. C'est très américain quand tu penses à ça.
Mais c'est différent de nous, parce que je regardais encore cette semaine les chiffres, là, puis je sais que faut pas être simpliste, là, mais c'est un tableau qui montre que dans les pays, plus il y a d'armes en circulation, plus les règlements sont mollassons, plus il y a de victimes par balle.
Oui.
Puis là, je connais l'histoire, là. Je connais la chanson par cœur de dire que les méchants sont capables de trouver des guns puis ils n'ont pas besoin d'aller en acheter légalement. Tout ça est vrai, là. Mm-hmm. Puis c'est vrai que les problèmes de santé mentale, c'est une donnée. Mais statistiquement, tu peux pas nier que plus il y a d'armes en circulation, plus il y a un potentiel de danger que des gens meurent par balle ou qu'eux-mêmes s'enlèvent la vie par balle. T'sais, il me semble que c'est... On peut après ça discuter du reste, mais on peut-tu au moins reconnaître ça à la base que les Américains reconnaissent même pas, là?
300 millions d'armes en circulation aux États-Unis. Ça, c'est ce qu'on a pu compter. Il y en a probablement plus. Mais, comme tu dis, quand tu peux en acheter, c'est sûr, ça tombe sous le sens. Donne un cas, OK? C'est une jeune Québécoise qui est tuée sur la côte ouest américaine. Elle est partie en voyage. Puis ça, c'est un cas, mais ça donne un exemple de comment les armes sont en circulation. Et là, il y a un procès. Elle était partie en randonnée, elle rencontre des jeunes. Et ces gens-là lui tendent un piège là-dessus. OK? On va pas s'attarder sur les détails. Comment ils ont obtenu un gun, ces gens-là? Bien, ils ont défoncé une voiture parce qu'ils voulaient trouver de l'argent ou d'autres trucs. Ils ont trouvé un gun. Ah, parfait, on le prend. Et c'est avec ça qu'ils ont pu tuer cette jeune femme-là, un autre randonneur dans le même parc. Ça te montre à quel point, oui, ça peut arriver ici, mais statistiquement, je pense que si tu défonces une voiture ici à Montréal, là, les chances que tu trouves une arme à feu chargée sont beaucoup moins grandes que dans une grande ville américaine.
Mais je comprends les propriétaires d'armes au Québec de dire « arrêtez de nous comparer » parce que souvent, c'est...
C'est pas le même type d'arme.
C'est pas le même type d'arme, c'est bien plus sévère ici, puis c'est pas la même mentalité qu'aux États-Unis. Là. On est dans trois univers différents. Là.
Trois univers différents, et quand tu parles d'univers différents, on va prendre Détroit et on va prendre Windsor. Détroit, aux États-Unis, évidemment. Windsor, l'autre bord de la rivière, l'autre bord du pont, au Canada. Et à Détroit, t'as combien de meurtres dans une année? En 2017, 267 meurtres. À Détroit, en 2018, 10 meurtres. C'est vrai que la circulation des armes, la libre circulation des armes crée des meurtres, mais aussi un jour, il faudra qu'on se donne une tape dans le dos. C'est pas parfait au Canada, c'est pas parfait au Québec, mais d'avoir des mesures sociales, d'avoir moins d'inégalités sociales que ce qu'on voit aux États-Unis, ça crée moins de crimes aussi.
Bon week-end, monsieur. Il est 8h53.